Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui dans l'émission Rémi Barré, avec l'économiste Pierre Rondeau, avec la journaliste à l'incorrect Juliette Briens, et avec le journaliste et écrivain Fred Hermel. Dans un instant, on va parler de ces 59% de Français en faveur d'une réduction des aides sociales. D'accord, pas d'accord. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le zapping, le meilleur du jour sur RMC. À 14h, l'Union Européenne qui va surtaxer les véhicules électriques chinois. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? 14h30 RMC Conso, on va parler des pénuries de produits dans les rayons des supermarchés, on va vous dire ce qui vous attend. Il y aura les immanquables également, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Ouais, on reviendra notamment sur ce qui se passe en ce moment du côté du nouveau Front Populaire de gauche, qui est peut-être déjà mort-né. En tout cas, les discussions pour la répartition des circonscriptions sont suspendues pour le moment. Et puis on parlera également du plongeon du jour, enfin, qui est reporté. Le plongeon, je parle de celui d'Anne Hidalgo.
À mon avis, il n'aura jamais lieu.
Hein. Politique. Dans la Seine, vous savez, elle avait promis le 23 juin. Ça ne sera pas le 23 juin.
Quel dommage.
Bon, on va voir.
J'avais noté la date dans mon agenda.
Oui, mais elle promet qu'il y en aura un. Elle est certainement un dimanche.
Oui. À 2h du mat. En plein hiver. Ok. Très bien, Rémi.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC. On va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Selon le baromètre Odoxa, 59% des Français souhaitent réduire les aides sociales. C'est une hausse de 7 points en un an des Français, Rémi, qui souhaitent également abaisser le nombre de fonctionnaires, le tout pour réduire notre déficit public.
Ouais, et les aides sociales en France, c'est vrai que ce n'est pas rien. On en a une idée très précise grâce à la dernière étude réalisée par la direction des statistiques du ministère du Travail. En 2022, la France a consacré près de 849 milliards d'euros aux dépenses de prestations sociales, soit 32,2% de notre produit intérieur brut. Pour la 7e année consécutive, le pays occupe le premier rang européen en matière de dépenses sociales, des prestations françaises qui s'élèvent en moyenne à 12 550 euros annuels par habitant, dont 5 550 euros liés au risque vieillesse survie, on appelle ça comme ça, hein, retraite minimum vieillesse et prévoyance, et 4 700 euros liés au risque santé. Les autres prestations, elles sont moins coûteuses, qu'elles soient liées à la famille, 850 euros, l'emploi, 700 euros, la pauvreté et l'exclusion, 500 euros, ou le logement, 250 euros. Enfin, les prestations du risque emploi, là aussi c'est le terme qui est usité, elles ont diminué fortement, moins 20,7% en 2022, conséquence de la baisse du nombre de chômeurs, mais également de l'entrée en vigueur fin 2021 de la réforme de l'assurance chômage, qui a abaissé les montants versés et durci les conditions d'ouverture des droits. Et ça, c'est en 2021, puisque ces chiffres, je vous le rappelle, c'est les derniers chiffres, ça date de 2022, et une réforme de l'assurance chômage, il y en a une autre qui est en cours.
Alors, 6 Français sur 10 en faveur de la réduction des aides sociales, d'accord, pas d'accord, Fred Hermel?
Pas d'accord. Moi, je me souviens que j'ai été bénéficiaire des aides sociales. Moi, j'étais boursier, j'étais en résidence universitaire, j'ai touché les APL, etc. Aujourd'hui, je cotise beaucoup pour plein d'aides sociales que je ne touche pas. Moi, je vois pas pourquoi j'en priverais des gens alors que j'en ai beaucoup profité moi-même.
Parce que ça coûte cher.
Oui, par contre, il faut rationaliser. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu open bar, pour parler en anglais, je n'aime pas ça, mais j'aime bien cette expression. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup à beaucoup de gens qui ne le méritent pas. On donne un peu à n'importe qui.
Et mais donc, il y a des critères. Hein,
Oui, mais je trouve que les critères ils sont facilement contournables, qu'il y a une certaine gabegie. De la même manière qu'il faut réduire le train de vie de l'État, et je suis le premier à le dire, il faut réduire le train de vie, il faut rationaliser le train de vie de tout ce qui est les prestations sociales. Le social, c'est le premier budget de l'État en France, hein, c'est vraiment.
Mais qu'est-ce que tu enlèves comme aide?
C'est pas d'enlever des aides, c'est-à-dire que il faut peut-être on va dire clairement, par exemple, je trouve que les aides non contributives, c'est-à-dire quand il n'y a pas de cotisation, doivent être réservées aux Français. Par exemple, si on peut pas arriver d'un pays étranger et du jour au lendemain bénéficier d'aides sans avoir cotisé.
Ça se passe pas comme ça, tu le sais très bien.
Oui, mais enfin, il y a un délai.
C'est la santé.
Il y a un délai.
C'est la santé. Donc le sans-papier qui. On est d'accord.
L'AMO, c'est un milliard.
Tu vas le laisser mourir.
Non, non.
C'est pas grand-chose.
Je ne parle pas.
Ok, donc très bien.
Je te parle des logements sociaux, je te parle plein de choses. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une certaine rationalisation. Parce que ce qui va se passer, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec toute cette gabegie, c'est que ça va disparaître pour l'ensemble des gens. Et moi, je ne veux pas ça. C'est parce que je veux, je suis un homme de gauche au fond de moi-même, et depuis toujours, que je suis pour un État fort, avec des aides sociales fortes et aider les plus faibles, qu'il faut rationaliser et pas donner à tout le monde.
Ce que tu dis, c'est l'AME, en fait, c'est l'aide médicale.
Non, c'est pas que l'AME, c'est
l'aide médicale d'État.
Bah, regarde, par exemple, aujourd'hui, dans les logements sociaux, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers, par exemple, qui sont dans les logements sociaux.
Évidemment.
Qui ne sont pas sous QTF, hein,
oui.
Pour avoir un logement social.
Non, mais.
Oui, mais c'est des réfugiés politiques,
c'est l'immigration légale.
Donc, même si c'est légal, mais excuse-moi.
Des gens qui ont fui des dictatures,
c'est-à-dire que des gens.
Des gens qui ont fui la mort.
Quel que soit le pays d'origine de la personne qui cotise, mais elle doit avoir 100% des prestations sociales comme un Français. Par contre, les gens qui ne cotisent pas, je pense qu'il faut réserver ça aux Français.
Pierre Rondeau, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a trop d'aides sociales en France?
Je pense que 6 Français sur 10 sont ingrats. Sont incultes, n'ont pas conscience de la force de l'État-providence français. Dire que six Français sur dix dire qu'il y a trop de prestations sociales, alors que eux-mêmes très certainement en ont profité, soit de façon directe ou indirecte, l'école de la République, même à minima les routes, la télévision, vous regardez la RMC actuellement, on a la TNT gratuite, la radio, les fréquences, les hôpitaux, on a tous été vaccinés gratuitement, testés gratuitement, et on en est aujourd'hui à dire qu'il y a trop de prestations sociales. Je trouve ça, mais ingrat de leur part. Alors certes, oui, c'est peut-être mal géré. Certes, il y a des effets de seuil. Certes, l'imposition est mal faite, avec les cotisations progressives, dégressives en fonction des salaires. C'est mal réfléchi. Et je suis le premier à le dénoncer. Quand vous êtes, quand on parle de smicardisation de la France, parce que le SMIC est moins coûteux en termes de cotisations, il y a une incitation à embaucher au SMIC et à ne pas valoriser les bas salaires au-dessus du SMIC. Oui, c'est vrai. C'est mal fait, mal réfléchi, mal amené. Et il y a la question, je rejoins Fred là-dessus, d'une forme de rationalisation à avoir. Mais dire qu'il y a trop de prestations sociales, non mais je veux dire, on en profite tous. Oui, ok, la France est endettée. Oui, d'accord, la France, il y a beaucoup de prestations sociales, il y a beaucoup d'impositions, mais il y a des effets de seuil qu'il faut corriger, je suis le premier à le dire. Mais merci d'avoir cet État-providence. Merci d'avoir cet État social qui permet d'assurer à ce qu'on n'ait pas un niveau d'inégalité équivalent à ce qu'il y a aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne. En Allemagne, le taux de pauvreté, il est supérieur à 20%. Ah oui, très bien, on peut vouloir le modèle allemand avec des cotisations faibles, un taux de chômage faible, mais des salaires à 400 euros. Très bien, allons-y. Allons vers une forme de précarisation de l'emploi parce qu'on veut payer moins d'impôts, on veut libéraliser, on veut déréguler. Non mais on peut faire des comparaisons. Oui, la France est le premier pays en termes de fiscalité, en termes d'impôts. Mais le taux de pauvreté n'est que de 12%.
Oui, sauf que j'ai pas l'impression.
On n'a pas payé les tests. Okay, on n'a pas payé les vaccins.
J'ai pas l'impression qu'on aille si bien que ça. Tu vois ce que j'ai et que les gens qui nous appellent.
Mais faites des comparaisons, faites de la pédagogie. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez voir les Américains. Allez voir les Anglais. Pierre. Allez demander à un Anglais pauvre comment il vit par rapport à un Français
Pierre,
pauvre.
Pierre, nous, quand on a au téléphone et Dieu sait qu'on les a souvent ces coups de fil, deux personnes qui gagnent 1800 euros par mois et qui vous disent je ne m'en sors pas parce que tu l'as dit. Les effets de seuil, je ne touche aucune aide, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, c'est pas une majorité, mais tu peux te retrouver au chômage avec des aides, et le fait que tu n'aies plus à prendre ta voiture, finalement, pour aller au travail, le fait que tu n'aies plus besoin de garde pour tes enfants, etc., et ça fait que ton reste à vivre est parfois plus élevé que quelqu'un qui travaille. C'est ça aussi qui fait que, pour certains Français, il y a trop d'aides sociales. C'est parce que, justement, ils te disent, mais ça sert à quoi que je bosse?
Mais en fait, c'est la pédagogie qu'il faut avoir parce que j'en bénéficie directement.
Désolé Pierre, c'est pas en disant en Australie voilà comment ça se passe,
non,
ou même en Allemagne, mais
en France.
Mais c'est pas en disant ça à quelqu'un, je veux dire, qui bosse comme un dingue et qui n'arrive pas à vivre du fruit de son travail, que tu vas faire que ça change aujourd'hui son regard sur les aides sociales.
Lutter contre les effets de seuil, rétablir une véritable progressivité des cotisations sociales, oui. Mais ne dites pas qu'il y en a trop et qu'on n'en profite
mais
pas.
Personne ne dit qu'il y en a
certains
trop.
Certains vont dire, j'ai pas d'enfant, pourquoi je paierais pour l'école publique, par exemple.
La personne te dit ça.
Parfois, j'ai eu des gens qui ont appelé, qui ont dit ça, mais bref.
C'est pas la majorité. En tout cas, la personne te dit ça. Évidemment que c'est normal de cotiser pour les services publics et pour, même si t'as pas d'enfant, de cotiser pour l'école. Personne te dit ça. Il y a juste un moment où, en fait, le fossé se creuse. Ah,
c'est des
entre
gens qui
la
vont
personne.
Se plaindre de cotiser pour soigner les cancéreux fumeurs, par exemple.
Mais c'est pas ça. Je te dis qu'aujourd'hui, le fossé se creuse entre la personne qui n'arrive plus à vivre dignement de son travail et en fait, et qui dit mais moi je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à autant d'aide. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, et on peut le comprendre ce ras-le-bol là, parce que encore une fois, c'est aux gens qui travaillent, et quand tu n'arrives pas, je veux dire, à joindre les deux bouts, à pouvoir offrir un cinéma dans le mois à ton enfant, parce que justement, alors que tu bosses, bah, l'effet de seuil ne te permet pas, je veux dire, de toucher des aides, et que si tu gagnais 50 euros de moins, bah, finalement, t'en aurais 300 de plus à la fin du mois, bah, ça, c'est difficilement compréhensible quand même. Juliette Briens, est-ce qu'il y a trop d'aides en France, ou est-ce que finalement le système est mal fait, et elles sont peut-être mal distribuées, ou en tout cas, il faut tout remettre à plat?
Bon, alors évidemment qu'il y a trop d'aides en France. La première chose qu'il faut dire, c'est que le premier budget de l'État, la première dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette. Donc déjà, on n'a plus les moyens. En fait, il faut simplement regarder la réalité d'en face. On nous le dit tous les jours, la France n'a plus les moyens, nous sommes endettés. Donc, je pense que ces 59% de Français-là, ils ne parlent pas évidemment de l'école publique ni de l'hôpital, et que tout le monde est pour avoir des services publics de bonne qualité, ah oui, etc. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais évidemment qu'il y a trop d'aides sociales. On ne peut plus tenir ce modèle. On ne peut plus tenir le modèle de la retraite, puisqu'il n'y a pas assez ni de production, ni de dynamique, excusez-moi... de décence, et puis
démographique,
merci, c'est le mot que je cherchais. Donc il faut juste simplement savoir ce que l'on veut, et peut-être tout réformer. Par exemple, en fait, le problème de ces aides sociales, c'est qu'elles biaisent tous les marchés. À chaque fois par exemple les APL qui n'ont fait que permettre aux propriétaires d'augmenter les loyers, et maintenant on est en pleine crise du logement. En fait, à chaque fois qu'on touche comme ça à des marchés avec des aides sociales, ça biaise les marchés, et ça biaise le cours des choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts et on donne des primes. Et c'est absolument ridicule de continuer sur cette voie. Ça ne marche pas. Mais ça veut pas dire qu'on va tout bazarder, qu'on va bazarder la sécurité sociale et qu'on va pas payer pour le cancéreux.
Le cas très spécifique des APL, on les a baissés, pour autant, l'immobilier n'est pas reparti. Hein.
Une fois que le bordel est partout, qu'on a mis des logements sociaux partout, etc., ça prend un peu de temps, effectivement, pour relancer la machine. Mais c'est bien les APL qui ont permis aux propriétaires d'augmenter leur loyer.
Non, il n'y a pas que ça.
Alors, on est avec Alexandra. Et Alexandra, elle est assistante sociale depuis 5 ans à Paris. Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, j'imagine que vous, en tant qu'assistante sociale, vous dites que non, il n'y a pas trop d'aide en France.
Je dis plutôt l'inverse. Il y en a, enfin, elles sont très bien, il y en a, mais il faudrait effectivement remanier tout ça, parce qu'effectivement, comme disait, je ne sais plus qui sur le plateau, on arrive à contourner effectivement certaines aides. Des personnes qui sont au RSA actuellement, maintenant il y a un suivi au niveau de l'emploi avec Pôle emploi, France Travail maintenant, et pour ces personnes-là, pour contourner, on va essayer de trouver des raisons de santé pour passer sur une allocation adulte handicapé, où il y a même des au niveau de certaines mairies de la ville de Paris, où on arrive à faire des RSA santé, qu'ils appellent ça, où en gros ces personnes-là n'auront pas de suivi conjoint pour le travail. Donc en fait, c'est des personnes qui ne contribuent à rien, qui ne se mobilisent dans rien. Avant, on faisait vraiment de l'accompagnement social. Maintenant, on fait des ouvertures de droits.
Oui, et c'est vrai que c'est dommage qu'effectivement il n'y ait plus d'accompagnement social, parce que c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, mais pourquoi vous ne le dénoncez pas si vous le dites ici avec nous en plateau?
Parce que c'est le système.
Elle n'aura jamais
l'appui de sa hiérarchie.
D'accord, mais elle est assistante sociale, elle pourrait le dénoncer.
Non, je reviens en fait sur le débat qu'il y a eu juste avant, sur dire au travail ou pas. Dans la fonction publique et travaillant dans le social, on ne peut absolument pas avoir ce discours-là. C'est impossible.
Bah oui, évidemment.
Sinon, vous allez vous faire marcher.
Mais oui, parce que c'est à l'inverse de ce pourquoi elle travaille. Donc, bien sûr, mais merci en tout cas, Alexandra, d'avoir été avec nous. Mais vous, par exemple, quand même, juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des aides qui, selon vous, devraient être supprimées ou réduites, et d'autres auxquelles il ne faut absolument pas toucher?
Alors, supprimer, pas forcément, mais effectivement, moi, revenir sur l'AME, pour moi, cette aide, alors effectivement, il faut soigner les personnes étrangères, ça peut être le risque de faire d'autres maladies.
Bah oui, sinon ça nous coûterait encore plus cher.
Mais pour moi, c'est un non-sens. Cette aide est un non-sens dans le sens où on ouvre un droit pour des personnes. L'AME s'ouvre à partir de 3 mois en situation irrégulière dans le pays. Avant, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'en fait, on ouvre des droits à une personne qui n'a pas le droit d'être là, et en plus, elle n'a pas le droit d'être là pendant 3 mois.
Oui, mais en fait, Alexandra, l'AME, c'est 1 milliard d'euros, mais si jamais, en fait, il n'y avait pas l'AME, ça coûterait encore plus cher à la France. Si,
les gens ont l'impression
si une personne, si une personne, par exemple, a la tuberculose ou une autre maladie infectieuse et que vous ne la soignez pas, là, vous risquez d'avoir énormément de cas.
On la soignera à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital, donc.
Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne soigne pas les gens?
Si, à l'hôpital, c'est ce qu'elle est en train de dire.
Et les personnes qui n'ont pas d'AME ont des factures à 200 000 euros qui sont prises en charge par l'hôpital. Donc en fait, la finalité reste la même.
Ouais, mais bon, donc si ça reste la même, c'est pas la peine de la supprimer. Là,
oui, on pourrait aussi faire en sorte que ces personnes ne soient pas illégalement sur notre territoire. Ça pourrait être
Tu peux remonter la rivière, effectivement, prévenir cette arrivée, ok. Mais une fois qu'ils sont là, je suis désolé, dire comme ça, de façon totalement logique et normale, supprimons l'AME et laissons mourir des gens, ou alors aux urgences à l'hôpital.
C'est pas ce qu'elle te dit.
Aux urgences à l'hôpital, une fois que t'as une belle tuberculose, là, on va venir effectivement constater que tu es au bord de la mort, donc on va te soigner. Mais toute la prévention, tous les rendez-vous médicaux, tout le traitement médical français, non, parce que ça coûte très cher et ça provoquerait la dette française. Coûte un milliard, l'AME.
Une fois que
ça
c'est une belle tuberculose, il l'a pas attrapé.
Tu crois vraiment qu'en la supprimant,
tu vas sauver la France? Il a attrapé à la tuberculose, hein. La tuberculose, il vient avec, hein. Donc, il va directement à l'hôpital.
Quoi? Non, mais le
ça m'étonnerait qu'il l'ait chopé en France.
C'est pas le débat. Et encore une fois, l'AME, c'est 1 milliard et notre dette, elle est bien plus importante que ça. Merci.
112% du PIB. Donc 1 milliard, c'est
merci
rien.
Merci Alexandra, en tout cas, d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Mathieu Plane, qui est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous, de réduire les aides sociales en France?
Alors, je pense qu'il faut d'abord cadrer un peu le débat. C'est qu'est-ce qu'on entend par aide sociale?
Exactement.
Et on voit que ça part dans tous les sens, cette affaire-là, parce que, effectivement, la France se caractérise par un modèle social important, un des plus importants au monde, hein, ça c'est clair. Je regardais les chiffres, chaque année, les prestations sociales, c'est 850 milliards par an, donc c'est beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est plus que la moitié de la dépense publique, hein, il faut avoir ça en tête. Mais les gros postes de dépenses, hein, si vous les regardez, il y a quasiment 700 milliards qui sont liés à la retraite, et à la santé. Après, je vous donne des ordres de grandeur. Hein, si on parle des aides sociales, mais qui sont celles pour plutôt lutter contre la pauvreté, type RSA et autres, on est sur 30 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire que on a 700 milliards sur les retraites et la santé, qui sont des postes extrêmement importants et qui font vraiment la singularité française, hein, notamment. Et les aides sociales purement pour la pauvreté et ce qu'on appelle l'exclusion sociale, c'est de l'ordre de 30 milliards. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc quand on dit on va réduire les déficits en réduisant les aides sociales, on pense tout de suite à ça, mais on voit qu'il y a quand même assez peu de grains à moudre. Et puis, force est de constater, c'est que le RSA permet quand même à des gens de survivre. C'est pas non plus extrêmement important dans un pays où bon les inégalités n'ont pas explosé, mais il y a quand même des inégalités qui existent. Et vous avez même un autre paradoxe là-dedans. C'est qu'un tiers des gens qui ont droit au RSA n'ont pas recours au RSA.
Ils ne le demandent pas.
Donc vous voyez, y a pas, enfin, on voit des abus, mais en réalité, dans les chiffres, c'est quand même loin d'être si évident que ça. Et à côté de ça, vous avez autre chose, c'est-à-dire qu'on dit, je crois que 60% des Français veulent réduire les aides sociales, mais de l'autre côté, si vous demandez aux Français s'ils sont attachés au modèle social français, ils le sont.
Oui.
Donc on est dans les paradoxes. Donc on pense qu'il y a des économies un peu magiques parce qu'il y a certainement certains abus. Mais ça reste quand même assez limité, ce que je veux dire. Le problème, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'un socle pour lutter contre la grande pauvreté, même s'il y a certains abus. Mais si on réduit massivement là-dessus, on va avoir beaucoup, beaucoup de pauvres et de grandes difficultés. Donc il faut faire quand même attention.
Et est-ce qu'on pourrait réduire certaines choses sur les dépenses sur la retraite, notamment? Parce que c'est ce qui coûte le plus cher.
Alors, c'est en plein débat, parce qu'il y a d'ailleurs le Conseil d'orientation
des retraites. C'est la désindexation.
Qui rend aujourd'hui son rapport, qui dit que malgré la réforme menée, on va avoir un déficit quand même en 2030. Donc, se pose la question de savoir comment le combler. Et si vous regardez les choses, c'est est-ce qu'on continue encore à augmenter le report de l'âge légal? Est-ce qu'on va au-delà des 64 ans? Est-ce qu'on augmente les durées de cotisation? Ou est-ce que finalement on réduit le niveau des pensions, c'est-à-dire qu'on les fait augmenter moins vite que l'inflation? Parce que ça fait beaucoup d'économies, ça. C'est-à-dire que si vous augmentez de 1 point de moins les retraites que l'inflation, vous gagnez 3 milliards directement. Donc c'est beaucoup, vu les masses. Mais le problème, c'est que vous réduisez le pouvoir d'achat des retraités. Donc il n'y a pas de formule magique. Mais c'est vrai que dans un moment où il faudra un effort de redressement des comptes publics, si jamais on se retrouve dans cette situation, bah, cette piste-là, est difficilement, on peut difficilement l'écarter. Oui.
Il y a un peu la retraite à points aussi, quand même, qui n'est pas étudiée, mais qui permettrait de gagner un peu d'argent. Hein.
Elle a été étudiée, elle a été écartée. Ça a été effectivement sous Édouard Philippe qui avait eu
la
mise en place du transfert justement pour faire ce qu'on appelle une forme de retraite universelle où chaque euro cotisé donne les mêmes droits. Oui, il y a des éléments de réflexion à avoir autour de tout ça, mais on voit que c'est il y a rarement des solutions évidentes, quoi.
Non, sinon elle serait déjà appliquée.
Enfin, tout le monde serait content.
J'ose l'espérer. Merci beaucoup Mathieu Plane d'avoir été avec nous. Vous avez des messages, Rémi?
Ouais, Thierry nous écrit: réduction des aides sociales, d'accord, mais à partir du moment où une vraie réforme est engagée et aboutit à l'augmentation des salaires, moins de versements de prestations doit être égal à moins de prélèvements et donc à une augmentation des salaires.
Nicolas est avec nous, Nicolas qui nous appelle de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône et qui est sans profession depuis 8 mois. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes sans profession, vous êtes au RSA ou vous êtes aujourd'hui au chômage ?
Non, je suis au RSA en fait. J'avais ma propre société il y a encore un an de ça, où je gagnais quasiment 4000 euros par mois et je me suis retrouvé avec des problèmes de santé qui m'ont mis au RSA parce que je n'ai pas le droit au chômage vu que j'étais en micro-entreprise et qu'on en micro-entreprise, voire cotise pas du tout. Donc du coup, j'ai pas eu le droit au chômage. Et en fait, oui, depuis tout à l'heure, j'entends le débat et en fait, j'ai l'impression qu'on pense que les gens qui sont bénéficiaires des aides sociales en France gagnent 3000 euros par mois. Sauf que c'est pas le cas en fait. Actuellement, on me donne 500 euros par mois. C'est clairement pas avec ça qu'on vit. Tout à l'heure, j'entendais Juliette, il me semble, qui était vraiment opposée, enfin qui voulait vraiment qu'on baisse les aides sociales en France. Et j'espère pour elle qu'elle aura jamais de problème de santé, qu'elle se retrouvera jamais avec 500 euros par mois, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, elle gagne très bien sa vie. Donc je veux dire, on n'est pas des gens qui profitons du système. Le monsieur là, juste avant l'a dit.
Je pense que moi et toutes les personnes qui se sont exprimées dans ce sondage, quand ils disent ça, ils ne pensent pas à vous. Vraiment.
Oui,
et je pense qu'il y a d'autres choses à aller chercher, d'autres choses à aller faire, que de s'attaquer directement aux plus pauvres et aux gens bénéficiaires du RSA. En revanche, j'aimerais effectivement qu'il y ait plus de contrôle et qu'on s'assure que ces aides déjà arrivent aux bonnes personnes.
Croyez pas, on est énormément contrôlés. C'est-à-dire que moi, j'ai des rendez-vous quasiment toutes les deux semaines avec Pôle emploi et le pôle d'insertion qui suit maintenant le côté RSA. Ouais. Et puis
moi, je vous crois quand vous me dites ça, mais j'ai tellement d'exemples de cas contraires que je...
Oui, mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça dure 8 mois. Donc là, ça fait 8 mois que je suis au RSA. J'aurais pu rester que 2 mois au RSA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cause de mes problèmes de santé, je dois faire un dossier d'MDPH. Dossier d'MDPH, mais 6 mois minimum, et là, ça a mis 7 mois pour qu'on me dise qu'il faut une contre-expertise. Donc, du coup, je suis rapidement essoufflé, je suis désolé, mais contre-expertise. Donc, du coup, ça repousse le truc encore de potentiellement 6 mois. Donc, en fait, il y a d'autres leviers, ne serait-ce que le levier administratif en France qui est affreux. Pour faire en sorte que les gens puissent rapidement retrouver un travail, puisque mon but n'est pas de rester au RSA en gagnant 500 euros par mois.
Pour clarifier, Nicolas, moi je suis pour qu'on aide évidemment les gens qui sont en incapacité de travailler, ça va de soi, je vous le dis.
Après, ce que disait encore une fois notre invité, Mathieu Plane, hein, qui est économiste, hein, c'est que c'était pas sur les aides sociales comme le RSA qu'il fallait aller chercher évidemment des économies, mais plutôt sur les retraites, puisque c'est ce qui coûte le plus cher, donc personne n'avait dans l'idée de réduire le RSA, évidemment, qui est de 532 euros, alors c'est déjà très faible. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi, Nicolas, et puis merci beaucoup de nous avoir appelés. On va voir tout de suite ce que donne notre sondage. Rémi, on vous a posé la question. 60% des Français favorables à la réduction des aides sociales, d'accord, pas d'accord?
Eh ben, sur nos réseaux sociaux, c'est davantage. C'est 78% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux qui sont favorables.
Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on va parler du front de gauche qui est déjà en train d'exploser. Enfin, il n'était même pas né, mais il est déjà en train d'exploser. Je vois évidemment Pierre Rondeau qui est en train de faire la moue sur son siège. On se demandera s'il faut interdire les portables aux moins de 11 ans. Ça, c'est une proposition d'Emmanuel Macron qui date d'hier. Et puis, on parlera des menus à l'Euro 2024. Ce sera saucisses vegan et bière sans alcool pour tout le monde. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, on est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Pierre Rondeau, Rémi Barré, Juliette Briens et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commencer tout de suite avec cette question. Le Front Populaire a-t-il déjà implosé? Les discussions du Front Populaire sont suspendues pour l'instant, en cause le programme et la répartition des circonscriptions. Écoutez tout de suite Cyprien Pézril du service politique d'RMC.
Négociations suspendues parce que les dirigeants socialistes et insoumis se disputent les meilleures circonscriptions à qui seront attribuées celles où la probabilité de l'emporter est la plus forte. Pour bien comprendre, ce n'est pas la question de la quantité de circonscriptions qui pose problème, ça a déjà été tranché hier, mais la qualité, plus facile de gagner pour un candidat de gauche investi par exemple en Seine-Saint-Denis qu'à Neuilly-sur-Seine, et donc PS et LFI accusent l'autre d'être trop gourmand. Voilà ce qui explique ce blocage absolu.
Et selon Libération, il y a encore d'autres raisons à ce blocage.
Bon, Libération qui confirme la suspension des négociations et qui parle en fait d'un désaccord sur la qualification de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier en Israël, et aussi sur la présence d'Adrien Quatennens sur les listes LFI.
Pierre Rondeau, ça vous attriste que ce Front Populaire qui en fait normalement aurait dû naître comme ça il y a deux jours est déjà implosé?
Ça m'attriste, mais au fond de moi je me dis normal. Normal qu'une coalition qui va mêler à la fois des anarchistes, des féministes, des écologistes, des sociodémocrates.
On peut être féministe, anarchiste et écologiste.
Je continue. En même temps. Des sociodémocrates, des libéraux de gauche, des post-keynésiens. Enfin, tout
des
un
mélange. Il y a longtemps que je l'ai pas entendu ça.
Oui. Il y en a. Place publique.
C'est place, comme une niche. Hein.
Place publique. Hors la Luc, c'est des post-keynésiens. C'est une niche, mais ça existe. Ouais, et donc toute cette coalition mêlant plein d'idéologies différentes qui lors d'un dîner forment des débats merveilleux et jouissifs, je dirais.
Ils ont rien pour s'entendre, ça.
Mais voilà, une coalition qui mêle une telle différence de point de vue, quand bien même on soit tous de gauche, et ils soient tous de gauche, oui,
c'est la NUPES qui a explosé il y a quelques mois.
Ouais, mais la NUPES, on n'avait pas eu la vision de ce qui est devenu la bordélisation de l'Assemblée avec LFI.
Fabien Roussel qui parle très sévèrement de Jean-Luc Mélenchon.
Parce qu'il s'est fait insulter lui-même.
Non, absolument.
Doriot, grand collaborationniste.
Non, mais c'est ce que je dis. Je veux dire, c'est Fabien Roussel qui, à un moment donné, dit stop, la NUPES n'est plus possible, moi j'arrête, elle n'existe plus parce que.
Mais c'est une fois
déjà, c'était invivable.
C'est une fois qu'elle a eu lieu. Moi, je me rappelle, j'ai parlé pour moi, en 2022, quand on a entendu après la présidentielle la NUPES, tout le peuple de gauche s'est dit waouh, génial que tous ces gens qui peuvent être totalement différents d'un point de vue idéologique se réunissent pour faire face à Emmanuel Macron. Et je pense que les électeurs de la NUPES, à ce moment-là, en 2022, y ont cru. Et ont vu ce que ça a donné à l'Assemblée, la bordélisation, les conflits permanents, l'absence de débat, les insultes entre membres même de la NUPES, fait qu'au final, on se retrouve avec.
Ce qui est dommage, c'est que ce qui bloque un peu, c'est LFI finalement, parce que si tu as les écolos, place publique, le PS.
Il y a aussi même le NPA qui s'est greffé.
Oui,
qui
sont mais enfin, ils sont deux. Donc,
oui, pas, mais voilà. oui.
Mais c'est vrai qu'en fait, c'est la frange la plus dure en fait qui pose souci, parce que sinon, encore une fois, tu peux faire un front de gauche PS écolo.
Mais t'auras une désunion parce que t'auras des voix de gauche qui iront vers LFI. Donc t'auras une incapacité à porter au pouvoir cette gauche. Donc il faut une union des gauches forcément. Mais est-ce que des gauches sont réconciliables?
Mais tu dis que en fait ils pensent pas du tout pareil. Donc comment tu peux t'unir?
Les gauches irréconciliables ou les gauches réconciliables, c'est un grand débat. Et il faut qu'il y ait beaucoup de repas de famille pour pouvoir en discuter.
Cela dit, la droite est aussi irréconciliable. Donc
oui, c'est pareil Zemmour qui n'a pas avec Marine Le Pen.
Tout ça est en train d'imploser. Ça vous réjouit ou pas? Juliette Brien, ça
me réjouit tout ce bazar entre les gauches. Oui, après stratégiquement, moi je pense que j'aurais préféré un Front Populaire pour des raisons très stratégiques. Mais évidemment que le problème c'est LFI. LFI est la cause du problème. Vous rendez compte, ces gens sont prêts à faire capoter tout l'accord qui sera négocié depuis quelques jours parce qu'ils refusent de catégoriser le Hamas de terroriste. Voilà, tout est dit en fait.
Donc ils veulent garder Adrien Quatennens.
Qui a frappé sa femme. Oui. Mais voilà, le problème vient évidemment de là. Je ne comprends pas comment le PS a pu imaginer faire alliance avec ces gens. C'est c'est totalement contre nature. Et si ça capote, ce sera très bon pour le PS, je pense, et très mauvais pour LFI. Voilà, c'est ce que je pense.
Mais c'est quand même dommage pour la gauche, finalement. Fred Hermel, vous qui dites toujours que vous êtes un homme de gauche, j'imagine que votre petit cœur doit saigner en voyant ça, parce que il y avait quand même énormément d'électeurs de gauche qui appelaient de leur vœu une union de la gauche, justement.
La gauche pour laquelle j'ai voté il y a longtemps n'existe plus. Donc la gauche républicaine n'existe plus. Donc, en fait, ce qu'il y a de dingue, c'est que Glucksmann a fait une très belle campagne. Il a été le vainqueur à gauche des élections européennes. Et que trois jours après, il a beaucoup moins de circonscriptions qu'LFI, qui n'a pas atteint les 10%.
Oui, mais à la présidentielle, LFI a fait un carton.
Oui, mais enfin, mais là, oui, mais sauf que...
Et le PS a fait moins de 5%.
Le PS a fait 1,74 avec Anne Hidalgo. Sauf que là, au moment où on en parle, la dernière photographie de l'opinion, c'était il y a trois jours... Et le PS était devant. Et là, il a beaucoup moins de circonscriptions que LFI. Donc,
ah oui, c'est ça aussi qui est incroyable. Ça, c'est incroyable.
Mais oui, mais, la dernière élection,
le PS qui a fait 14% aux européennes se couche devant LFI et leur donne plus de circonscriptions. C'est qu'en fait, les LFIs contrôlent tout son.
Mais tu peux pas comparer les européennes qui ont une élection, je veux dire, à un seul tour. Et la dernière élection à deux tours.
C'est une photographie de l'opinion. Non, mais surtout, parce que comme les socialistes allaient seuls, comme LFI allaient seuls, comme les écologistes allaient seuls, on savait très bien qui était qui. Et là, on a vu que la majorité des Français de gauche votaient pour le PS et non pas pour les filles.
Après, c'est pas fini, hein. On va peut-être venir.
Ils ont jusqu'à dimanche.
Oui, voilà. Parce qu'on est jeudi.
C'est assez urgent.
Oui. 13h38.
Ouais. Bon, en trois jours, ça devrait pouvoir se faire.
Ils ont une énorme pression militante. Peut-être que les militants diront. Bon allez, c'est bon, reconnaissons le Hamas en tant que terroriste, c'est pas grave. Ça m'étonnerait, mais...
En tout cas, il y a effectivement une pression des
l'union, c'est vraiment très voulu à gauche.
Pour qu'il y ait l'union de la gauche. Les GG ce matin sur RMC. Faut-il interdire les portables au moins de 11 ans alors que les signaux d'alarme se multiplient sur la nocivité des écrans sur les enfants? Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier sa volonté d'interdire le téléphone portable au moins de 11 ans. Une très bonne idée pour l'entrepreneur Emmanuel Devilliers.
Dans l'océan de banalité dans lequel a nagé, venant du Touquet, notre président de la République hier, là, il y a cette mesure. Alors, malheureusement, elle est très tardive, ça n'a ni queue ni tête dans le contexte législatif, mais c'est une idée raisonnable, car on voit une dérive considérable, sans parler des casinos rissons qui sont avec des tablettes. Il faut sans doute aller vers une réflexion. Malheureusement, qu'est-ce que peut peser la France dans ce concert mondial du numérique? C'est un autre sujet.
Alors c'est super, hein, interdire les portables au moins de 11 ans, mais comment on fait, Pierre Rondeau?
Déjà, ils peuvent avoir, comme ça a été dit dans les grandes gueules, une norme européenne. Et c'est pour ça que l'Europe et la politique européenne est très importante pour les citoyens français. Et je me désole encore de l'abstention très importante aux dernières élections européennes, parce que c'est l'Europe qui pourrait prendre cette décision et pas uniquement Emmanuel Macron seul dans son château. D'ailleurs, on verra s'il pourra l'appliquer, parce que s'il perd la majorité à l'Assemblée.
Mais là, c'est une question sociétale.
Tout le monde s'étonne pourquoi, pour un discours post-dissolution de l'Assemblée, il met ça sur le tapis.
Mais comme les régions.
Il parle du téléphone portable. On lui dit, mais attendez, vous venez de mettre en place un système qui va bouleverser la politique nationale. Vous bordélisez la politique. Et qu'est-ce que vous dites? L'interdiction des téléphones portables à 11 ans. Alors on peut en parler, on peut en discuter. Oui, bonne ou mauvaise idée. Certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est mal, d'autres disent que c'est applicable, d'autres disent que c'est inapplicable. On pourrait, au-delà de ça, interdire les téléphones dans les établissements scolaires.
C'est déjà le cas.
Parce que toi
t'as des 25 ans, donc.
Oui, c'est pareil. Je trouve que j'utilise le téléphone
au collège. Au collège, c'est interdit.
Non, maintenant, ce qui est fait, maintenant, j'ai vu ça. Il y a un retour je sais pas si je peux dire les marques, du Nokia 3210.
Oui.
Et il y a le nouveau modèle où en fait c'est le Nokia 3210. Donc c'est pas un smartphone, c'est un téléphone, mais il y a Internet pour que les parents soient rassurés. Parce que, disons-le, les téléphones à moins de 11 ans, c'est la géolocalisation.
Bah évidemment.
C'est le fait que les parents soient rassurés de savoir où sont leurs enfants.
C'est l'entrée en sixième.
Donc on leur donne un téléphone pour appeler, mais avec Internet pour savoir où est-ce qu'ils sont.
Est-ce qu'il y a le jeu Snake sur le Nokia?
Bien sûr.
Le 3210.
Bien sûr.
Mais cela dit, au départ, moi, bon, j'ai donné un portable à mes enfants quand ils sont rentrés en 6e et c'était pas un smartphone.
C'était un téléphone à clapet. C'est pour appeler ma mère. Il y avait un numéro de téléphone, c'était maman.
Évidemment.
En fait, la question, le problème, c'est pas le téléphone, c'est le smartphone.
Oui.
Voilà.
Mais
oui. Connecté.
Voilà, connecté. Donc, en fait, on aurait dû être précisé. Oui. Parce que que les parents soient rassurés parce qu'ils peuvent envoyer SMS au gamin, moi, je trouve ça très bien.
Tu peux pas géolocaliser sur un.
Mais tu mets.
Tu leur files un tag sur les clés.
Je suis sûr qu'on peut géolocaliser.
Les nouveaux, tu peux.
Tu donnes un Apple Pad, là, ils sont pas connectés à Internet.
Tu donnes un AirTag sur des clés.
AirTag, voilà. Exactement. Non, mais voilà, tu as dit ce que je voulais dire. En fait, faut pas parler de téléphone, faut parler de smartphone connecté et de réseaux sociaux, parce que c'est ça le problème des smartphones connectés aujourd'hui, et c'est ça qui tue nos jeunes. Donc, mais c'est bien qu'il y ait une conversation autour de ça. Après, est-ce que c'est le moment? Je suis assez d'accord avec Pierre, ça fait un peu dérisoire au vu du bordel actuel.
Mais après, un parent qui a envie d'acheter un téléphone à son enfant, il va aller à la Fnac ou chez Darty, il va acheter son téléphone le soir, il va le donner à l'enfant.
En termes de contrôle, je ne sais pas trop comment on s'y prend.
Contrôle dans les foyers.
Attention, mais s'il y a une loi qui interdit, ça fait réfléchir.
Et tu vas mettre un flic devant les fenêtres pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Automatiquement, les parents se disent, si c'est interdit, c'est peut-être pas très bon.
T'es naïf.
Non mais c'est comme les réseaux sociaux avant 15 ans. Mais tu crois que les enfants?
Moi je propose une grande politique de délation générale.
Non mais aujourd'hui t'as plein de gamins qui sont super jeunes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui ils sont quand même interdits aux moins de 18 ans les réseaux sociaux. Mais tout le monde peut y accéder. Mais il n'y a rien de plus facile. Donc, en fait, je comprends pas bien comment il va s'y prendre. RMC Sport, hier sur RMC, saucisse vegan et bière sans alcool à l'Euro de foot. La fête sera-t-elle vraiment de la partie? Lundi va s'ouvrir la compétition européenne en Allemagne et les supporters sont mécontents des directives mises en place par les organisateurs qui misent sur l'écologie avec notamment au menu des bières sans alcool et des saucisses vegan. Mais certains ont décidé de résister à l'image de ce commerçant munichois qui témoignait pour RMC.
Voici nos spécialités. Alex ne veut pas du tout entendre parler des saucisses véganes de l'Euro 2024. Les saucisses classiques sont bien meilleures que les autres. Je ne suis pas végane, donc je vends des saucisses de porc.
C'est bien ou pas, Pierre, ces saucisses véganes et ces bières sans alcool?
Moi, les saucisses véganes, je les ai goûtées. Alors c'est un peu le paradoxe de vouloir me faire du vegan avec le goût de la viande.
Bah oui.
Mais je vous assure que ça a le goût de la viande. Je vois les.
C'est steaks, comme la bière sans alcool.
Les chips au goût fumé quoi.
Les steaks soja sont totalement différents et qui ont un goût spécifique soja. Ok, les vegans l'assument, c'est un goût différent, c'est une gastronomie différente. Mais ce concept de vouloir faire du presque viande, c'est vachement bien parce que waouh, tu le goûtes, c'est un vrai goût de viande, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que pourquoi, dans ces cas, ne pas manger de la viande?
Bah oui. Fred,
c'est le sujet le plus important du jour. Hein.
Non, mais est-ce que ça vous choque finalement que dans un stade où on a encore le droit de manger ce qu'on veut quand même, voilà. Alors la bière sans alcool, je comprends, ça évite les débordements, etc. Et puis là, il y a pas de souci, ça a été adopté dans les stades français depuis longtemps. Mais les saucisses véganes, est-ce qu'on pourrait pas laisser les gens manger ce qu'ils veulent, quoi?
Non, mais c'est insupportable. Mais c'est ça le wokisme en fait. C'est l'imposition d'une idéologie. Puis il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais ça et aucun végan n'arrive à me l'expliquer. Quand tu n'aimes pas la viande, pourquoi tu veux appeler tes produits qui ne sont pas de la viande de nom de produits de viande? Saucisse, steak, hamburger.
Mais pour faire envie.
Oui. C'est les industriels.
C'est ridicule.
Il y a un mot allemand pour ça qui renvoie à une époque. C'était compliqué. Non, mais on appelait ça des ersatz.
Ah oui, ersatz.
C'est ça.
On appelait ça des ersatz sur l'occupation.
Des imitations.
Il y avait pas de sucre, mais il y avait le goût du sucre.
L'appellation steak a été interdite justement pour les steaks
de soja. Les laits aussi. Lait de soja, tout ça. C'est boisson de soja. On n'a plus le droit de dire là.
Il est écrit maintenant lait, L-E, accent grave.
Ah bon?
C'est ça. Et avec deux points. Juliette Briens, ça vous tente, vous, ce genre de menu ou pas du tout?
Mais non, mais moi, je dis les. Laissez les véganes être véganes, ça me dérange pas. Bouffez vos steaks de soja si ça vous chante, mais je vois pas l'intérêt de venir nous l'imposer. Et je trouve ça hallucinant que ça passe ce genre de mesure, quoi. C'est fou, les gens n'iront plus. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, il paraît que tous ces... Alors vous me direz, peut-être je me trompe, j'ai pas encore vraiment, je suis pas trop penchée sur le sujet, on va dire. Mais ces steaks de soja, tout ça, c'est vraiment pas du tout écolo en plus.
Ça les manque de la viande. La consommation et bilan carbone est plus faible qu'un kilo de steak vegan
est plus faible que la viande.
Ça reste effectivement, c'est l'industriel, donc oui, ça pollue,
c'est ça.
Mais le bilan carbone est plus faible.
Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment pour l'écologie, c'est pour la cause animale, donc cette cause qui est en train de se déverser sur toute l'Europe sans raison gardée.
je suis pas très inquiète. Je me dis qu'il va y avoir des limites qui seront mises rapidement par la population elle-même qui va continuer à manger de la viande quoi qu'il arrive. Mais non, effectivement, ça me tente pas vraiment, moi, à titre personnel.
Voilà. Allez, dans un instant, ce sera AMC s'engage avec vous et on va revenir sur l'affaire des airbags défectueux chez Citroën. Vous entendrez le témoignage de la mère d'une victime qui attend toujours des réponses de la part du constructeur. À tout de suite sur AMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, c'est l'heure de vous aider comme chaque jour dans l'émission avec Amélie Rosic. Voici tout de suite RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Et aujourd'hui, Amélie, on reparle des airbags défectueux qui équipent certains modèles de Citroën.
Oui, on va rappeler les faits. Début mai, 250 000 véhicules C3 et DS3 qui sont rappelés en France avec interdiction de rouler. Leurs airbags sont dangereux. Ils peuvent en fait exploser à tout moment, notamment sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Et ils sont soupçonnés d'avoir provoqué la mort de 4 automobilistes. Serge avait 51 ans. En novembre dernier, il prend sa C3 pour aller déjeuner chez ses parents à Galan. C'est dans les Hautes-Pyrénées. Il n'est jamais arrivé. Sa mère, Louisette, s'exprime pour la première fois. C'est un témoignage RMC au micro de Guillemette Franquet.
Négociations suspendues parce que les dirigeants socialistes et insoumis se disputent les meilleurs.
Alors effectivement, on n'a pas entendu Louisette. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre ou pas.
De Louisette ou pas. Bon, je n'ai pas de réponse.
Louisette qui est âgée, hein, qui a 84 ans, qui explique que c'est une douleur de tous les jours, qu'elle a perdu son fils depuis le mois de novembre, qu'elle en pleure tous les jours. Bien et qu'avec son mari, c'est très compliqué parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer et comment une telle chose a pu arriver. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La procureure de la République de Tarbes nous confirme que l'airbag du véhicule de Serge est en lien, ce sont ses mots, avec l'accident mortel.
Amélie, aujourd'hui, ses proches cherchent désespérément des réponses auprès de Citroën et on les comprend, ils veulent comprendre en fait.
Exactement, comme toutes les victimes et même comme nous, hein, d'ailleurs, ils veulent comprendre comment et pourquoi le constructeur a attendu début mai pour rappeler ses véhicules. Et c'est une information RMC. L'avocat Christophe Legvac a déposé ce matin une sommation interpellative. Alors c'est un mot un peu barbare, mais en clair, ça veut dire qu'un huissier a remis en main propre à Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, ce courrier, cette sommation, pour en fait le contraindre à répondre à cette question. Depuis quand savait-il que ces airbags étaient dangereux ?
En fait, les victimes, hein, elles veulent savoir si Citroën a laissé sciemment ses clients conduire avec une voiture dangereuse et évidemment cette conduite qui a pu entraîner la mort.
Exactement, c'est ce qui va permettre de déterminer aussi les responsabilités, notamment dans les 4 accidents mortels. Et pour le moment, en fait, le constructeur il se borne à dire que oui, c'est vrai, il surveillait cette pièce qui est fabriquée par un fabricant japonais avant même 2019 et le premier cas d'accident en Guadeloupe. Le patron de Stellantis, par ailleurs, il peut décider de refuser de se soumettre à cette sommation interpellative. Sauf que dans ce cas, son silence, il est en fait constaté par huissier. D'accord. Et ça veut dire que dès l'ouverture d'une procédure judiciaire, ce sera versé au dossier et ça pourrait évidemment jouer en sa défaveur. 362 plaignants se sont déjà joints à l'action collective lancée par Maître Legvac.
Amélie, pour tous les autres véhicules concernés, que fait le constructeur ?
Eh bien, selon nos informations, 15 000 airbags ont été remplacés à ce jour. Ce sont des chiffres d'hier soir, c'est tout frais. 25 000 véhicules de prêt ont été mis à disposition des clients. Ça veut donc dire qu'il reste 210 000 automobilistes en France sans solution.
C'est énorme.
Et donc beaucoup n'ont pas le choix et continuent de rouler avec en ayant pris la peine de désactiver tout bonnement le système d'airbag.
C'est sympa leur choix. C'est-à-dire que soit ils désactivent leur airbag, soit ils prennent le risque alors que l'été arrive de rouler avec un airbag défectueux qui peut se déclencher à tout moment à cause de la chaleur. Mais en fait, c'est scandaleux. C'est absolument incroyable. Il y a 200 000 personnes qui roulent comme ça en France. Ce serait bien que Citroën commence à faire quelque chose quand même. En tout cas, merci beaucoup Amélie de nous avoir alerté sur ce dossier. Et puis, on espère que, en tout cas, Louisette va réussir à avoir des réponses quant à la mort de son fils. Merci beaucoup Amélie d'avoir été avec nous. On aide qui demain ?
Xina, ça vous parle ?
Xina.
Voilà, exactement. Bah, on parle d'Xina et tout ne va pas si bien que ça, surtout quand le chantier est arrêté pour des raisons de dépôt de bilan d'un franchisé, c'est pas évident derrière pour avoir sa cuisine posée. Hein.
Merci beaucoup Amélie, et si vous aussi voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes, vous n'hésitez pas, RMC avec vous, @rmc.fr. Dans un instant, dans Estelle Midi, on continuera à parler de voitures. L'Union Européenne qui va surtaxer les véhicules électriques chinois. Mmh. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? On en parle avec vous dans un instant. Dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.